Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour à tous, c'est l'heure de votre émission Bana Okapi sur les antennes de Radio Okapi. Nous émettons depuis Kinshasa, la capitale congolaise. L'émission Bana Okapi, diffusée de lundi au vendredi de 15h30 à 17h, est dédiée aux plus jeunes et aux jeunes. Nous la réalisons grâce à notre partenaire UNICEF. Aujourd'hui, nous faisons le point sur la situation sanitaire en RDC qui affecte plusieurs familles congolaises ainsi que des femmes. Dans son communiqué du 12 juillet dernier, l'Organisation mondiale de la santé alerte sur une situation sanitaire catastrophique dans les pays depuis les débuts de cette année. La population est confrontée à des épidémies de choléra, de rougeole, de méningite, de variole et de peste, toutes exacerbées par les graves inondations et glissements de terrain qui touchent certaines parties du pays. L'OMS s'est également préoccupée d'un variant du monkeypox depuis quelques mois en RDC. Plus de 11 000 cas, dont 445 décès, sont répertoriés avec un taux de létalité élevé de plus de 4%. Les enfants sont particulièrement touchés par cette épidémie avec des taux de mortalité encore plus élevés. Au sujet de l'insécurité alimentaire, 40 millions de personnes sont confrontées à des graves pénuries alimentaires, dont près de 16 millions de personnes sont exposées à la menace d'une insécurité alimentaire. Pour faire le point de toute cette situation, nous serons dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, du Maniema, de l'Ituri, ainsi que du Haut-Katanga, avec nos différents reporters et nos invités. Je suis Sarah Soumbela à la présentation de cette émission, mise en onde de Billy Landry Betou.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal Plus au canal 572 pour Radio Okapi. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
La RDC, au cœur d'une catastrophe sanitaire grandissante, a averti le 12 juillet l'Organisation mondiale de la santé. Les épidémies se sont gravement détériorées ces derniers mois en raison des violences et des inondations. Ce sont notamment les épidémies de choléra, de rougeole, de méningite, de variole et de peste. Le point avec Gisèle Cage.
La population est confrontée à des épidémies de choléra, de rougeole, de méningite, de variole et de peste, toutes exacerbées par les graves inondations et glissements de terrain qui touchent certaines parties du pays, a déclaré à Genève la responsable des urgences à l'OMS. Depuis le début de l'année, plus de 20 000 cas de choléra ont été recensés, dont la plupart dans le Nord Kivu. Plus de 65 000 cas de rougeole, 1523 décès ont été signalés, le chiffre réel étant probablement plus élevé en raison de l'insuffisance de la surveillance de la maladie et de la communication des données. Dans le même temps, 3 073 cas de méningite, dont 251 décès, sont également signalés en RDC. L'OMS s'est également préoccupée d'un variant de monkeypox depuis quelques mois dans le pays. Plus de 11 000 cas, dont 445 décès, sont répertoriés avec un taux de létalité élevé de plus de 4%. Les enfants sont particulièrement touchés par cette épidémie avec des taux de mortalité encore plus élevés. Le conflit armé et les déplacements de population sont également les principaux facteurs d'insécurité alimentaire. Selon le dernier rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, environ 40% de la population, 40 millions de personnes sont confrontées à des graves pénuries alimentaires, dont près de 16 millions de personnes sont exposées à la menace d'une insécurité alimentaire. Si aucune mesure immédiate n'est prise pour répondre aux besoins fondamentaux en RDC, plus d'un million d'enfants souffriront de malnutrition aiguë, a averti la responsable de l'OMS. Cette situation sanitaire catastrophique s'est inscrite dans un climat de détérioration humanitaire, avec plus de 25 millions de personnes qui dépendent d'aide humanitaire. La RDC est aujourd'hui le pays du monde qui compte le plus grand nombre de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire. Environ 7,4 millions de personnes sont déplacées, dont 2,8 millions dans le seul Nord Kivu. L'accès à l'aide humanitaire reste fortement limité par la présence militaire autour des sites des déplacés internes et des établissements de santé, les obstacles bureaucratiques et les barrages routiers qui perturbent l'acheminement de l'aide là où elle est le plus nécessaire. L'OMS appelle donc à un accès durable et sans entrave et exhorte les parties à travailler ensemble pour rétablir la paix, première étape vers l'amélioration de la santé mentale et physique de tous les habitants de la RDC.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Dans la province du Nord Kivu, il y a 3 semaines que sont apparus le premier cas de monkeypox. L'épidémie est loin d'être endiguée autour de la ville de Goma. De 8 cas annoncés le 24 juin, les 2 zones de santé urbaine de Goma ainsi que la zone de santé rurale de Nyiragongo comptent actuellement 33 cas. 20 sont déjà déclarés guéris jusqu'à ce week-end. La division provinciale de la santé qui alerte appelle à l'aide pour une riposte adéquate. Bernardin Nyangi.
À ce jour, il y a 13 cas qui restent actifs et qui sont sous traitement après la guérison de 20 affectés, indiquent les sources de la division provinciale de la santé. Le coordonnateur du programme national de communication pour la promotion de la santé au Nord Kivu déplore que la plupart des cas soient déclarés parmi les personnes déplacées dans les camps à Goma et en territoire de Nyiragongo. Monsieur Désiré Bouyana ajoute que cette épidémie de monkeypox risque d'exacerber la crise humanitaire que vivent les déplacés regroupés dans des sites et qui font face aux problèmes liés à l'hygiène, la nutrition et l'habitation. Il appelle ainsi à un appui urgent pour plus d'efficacité de la riposte déjà enclenchée par l'autorité provinciale. Une équipe du secrétariat général de la surveillance épidémiologique séjourne déjà à Goma depuis ce week-end, dit-il, pour accompagner la riposte déjà mise en place. Rappelons que la variole des singes, connue sous l'appellation de monkeypox, est une maladie causée par un virus d'origine animale. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Merci Bernard Nyangi. Dans la province du Maniema, le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Lubutu annonce le cas de monkeypox dans sa structure. Docteur Kaleba Kikuka Mafiston parle déjà de 7 cas suspects avec un décès d'une femme de 30 ans. Ces derniers plaident pour l'appui en médicaments pour la bonne prise en charge de malades avant d'exhorter la population de se rendre à l'hôpital une fois qu'elle présente le signe de fièvre, plus les éruptions cutanées pour couper la chaîne de transmission. Docteur Kaleba Kikuka Mafiston a été joint par Florence Kizalunga.
Oui, je confirme qu'il y a des cas de monkeypox chez nous à Lubutu, précisément à l'hôpital général. Chez moi ici, nous avons enregistré 7 cas suspects de monkeypox et parmi lesquels il y a eu un décès d'une dame âgée de 30 ans. Ces cas viennent de la zone de santé de Lubutu Centre, mais aussi dans les aires de santé voisines. Dans l'aire de santé qui a une forte prévalence, c'est l'aire de santé de Mundu. La structure prend en charge ces malades, mais nous avons des difficultés par rapport à l'approvisionnement des médicaments. Les malades sont traités par les ordonnances externes. Nous demandons à nos autorités de nous venir en aide, surtout par l'appui des médicaments et les services accrédités du ministère qui est l'INRB, de venir nous aider dans les diagnostics des cas. Parce que la réalité du milieu est que quand on a les cas de monkeypox à l'hôpital, ça veut dire dans la communauté, il y en a beaucoup parce que la majorité vivent avec ces maladies à la maison.
Allons dans le Haut-Katanga. La province a notifié 172 cas de paralysie flasque aiguë depuis le début de cette année. Les échantillons envoyés à l'INRB sont tous négatifs. Le responsable du programme élargi de vaccination dans le Haut-Katanga demande aux parents d'emmener dans des structures médicales les enfants qui présenteraient le signe de paralysie de membres supérieurs ou inférieurs. Jean Gandou pour le détail.
À l'heure actuelle, ce sont toutes les 27 zones de santé qui ont notifié au moins un cas de paralysie flasque aiguë. Le premier a été enregistré au mois de janvier 2024 dans la zone de santé de Ruachi à Lubumbashi, qui compte à ce jour 46 cas. Les autres zones de santé qui ont aussi beaucoup de cas sont notamment Mufunga et Kenya avec chacune 11. L'âge de la plupart des victimes varie de 0 à 5 ans. Il y a aussi celles qui ont plus de 10 ans. Jusqu'à présent, aucun cas de décès n'a été signalé, rapporte le médecin chef d'antenne du programme élargi de vaccination dans le Haut-Katanga. Dr Blaise Kalenga précise aussi que tous les échantillons prélevés et envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale à Kinshasa sont négatifs. Ainsi, il demande aux parents qui constateraient que leurs enfants qui marchaient ou qui rampaient ne les font plus, de vite les amener directement dans les structures médicales pour une bonne prise en charge. En outre, ils doivent respecter le cycle complet de vaccination. Pour sa part, le médecin chef des zones de santé de Ruachi se félicite du travail abattu par les cellules d'animation communautaire ainsi que les relais communautaires pour retrouver tous les cas notifiés. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Merci Jean Gandou qui intervenait depuis la ville de Lubumbashi. Bienvenue à ceux qui nous prennent en cours de ce magazine Bana Okapi, qui fait le point sur la situation sanitaire en RDC. Dans son communiqué du 12 juillet, l'OMS alerte sur une situation sanitaire catastrophique en RDC. La population est confrontée à des épidémies de choléra, de rougeole, de méningite, de variole et de peste, toutes exacerbées par les graves inondations et glissements de terrain qui touchent certaines parties du pays. L'OMS est également préoccupée d'un variant du monkeypox depuis quelques mois en RDC. Plus de 11 000 cas, dont 445 décès, sont répertoriés avec un taux de létalité élevé de plus de 4%. Les enfants sont particulièrement touchés par cette épidémie avec des taux de mortalité encore plus élevés. Au sujet de l'insécurité alimentaire, 40 millions de personnes sont confrontées à des graves pénuries alimentaires, dont près de 16 millions de personnes sont exposées à la menace d'une insécurité alimentaire. Dans cette deuxième partie de Bana Okapi, nous serons avec nos invités.
Okapi, encore plus d'infos.
Dans la province du Maniema, précisément dans la zone de santé de Lubutu, plusieurs enfants sont affectés par le paludisme, la méningite et la rougeole. Concernant les cas de monkeypox, un cas est actuellement suivi. Notre invité est le docteur Kaleba Kikukama, médecin directeur de l'hôpital général de Lubutu, fait le point de la situation épidémiologique à Lubutu. C'est dans cet entretien avec Gisèle Cash.
Docteur Kalema Kikukama Fiston, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Lubutu. Nous sommes dans la province du Maniema où l'on signale des cas de monkeypox dans votre stricture. Pouvons-nous en savoir plus?
Oui, on a signalé les cas de monkeypox depuis le début de ces mois qui étaient évalués au nombre de 7, parmi lesquels il y a eu un décès. Présentement, nous restons qu'avec un seul malade qu'on est en train de soigner. Les autres sont déjà déclarés guéris et ils sont à la maison.
Alors, il y a quelques jours, c'était le 12 juillet, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a alerté sur la situation sanitaire catastrophique en RDC. L'OMS parle de plusieurs épidémies, notamment de choléra, de rougeole, de méningite, de variole et de peste. Pouvons-nous connaître quelle est la situation sanitaire dans la région de Lubutu?
Merci beaucoup. À Lubutu, les maladies à forte prévalence ici, nous avons le paludisme. À part le paludisme, nous avons les diarrhées. À part les diarrhées, nous avons la rougeole, la méningite et aussi quelques cas de tétanos néonatal ainsi que les cas de monkeypox. Ça, c'est les cas que nous avons.
Ça touche les enfants?
Oui, oui, autour des enfants et... des enfants et le paludisme aussi chez les femmes enceintes avec des complications multiples.
Mais qu'est-ce qui explique cette situation? Bon, nous savons qu'avec la malaria, nous sommes dans un pays endémique, mais tout ce qui est rougeole, méningite et la diarrhée, qu'est-ce qui explique que vous ayez ce cas-là? Et si nous pouvons aussi connaître le chiffre, si vous avez les chiffres entre vos mains?
Oui, par rapport au paludisme, je crois que chez les enfants, la semaine, ici à l'hôpital général, nous avons une vingtaine de cas chaque semaine. Et si on mélange avec les adultes, nous avons pas moins de 50 cas de paludisme chaque semaine. La rougeole, les causes sont multiples, la mauvaise vaccination, le refus chez certains parents... la mobilité de parents qui se déplacent ça et là, et la méningite, bon, c'est souvent les infections, ça peut arriver, voilà un peu en bref.
Et comment vous assurez la prise en charge de malades? Avez-vous de moyens suffisants pour assurer la prise en charge de toutes ces maladies?
Les moyens, je dirais personnel, soignant, oui, mais les moyens médicamentés, c'est difficile parce que l'hôpital n'a pas un partenaire d'appui en médicaments et ça fait longtemps. Et que les achats des médicaments se fait individuellement selon les moyens des malades via les ordonnances. C'est ce qui prouve un peu des difficultés parce que tout le monde n'a pas cette capacité d'acheter les médicaments et chez autres malades, nous avons des ruptures, ainsi de suite. Les difficultés vraiment des médicaments, nous en avons. Mais néanmoins, pour le paludisme, nous avons Ouaki qui finance via les 100 roues qui donnent quelque chose, mais les complications aussi des maladies comme le paludisme, on n'a pas une finance partiellement. On a des antipaludéens, les moustiquaires et le fansidar. Mais quand il y a des complications qui demandent par exemple la transfusion et les antibiotiques, les malades se débrouillent seuls.
Mais qu'en est-il de la diarrhée? Parce que vous dites qu'il y a des cas de diarrhée. C'est quoi l'origine? Il n'y a pas assez d'eau potable dans la région?
Oui, ici, normalement, il n'y a pas de régie des eaux. On a l'eau à partir des puits et d'autres bornes que les ONG ont construites, mais c'est difficile. L'eau ici, surtout pendant la saison sèche comme ça, les puits sont taris, c'est difficile.
Donc la population consomme l'eau des puits?
Oui, des puits et d'autres sources d'eau aménagées par certains partenaires qui étaient là.
Pouvons-nous conclure que, Dr Kaleba, que la situation sanitaire n'est pas autant critique dans la région de Lubutu?
Bon, dire que c'est critique, c'est un peu difficile, mais il y a vraiment un problème sur le plan sanitaire parce qu'on a des enfants qui meurent et d'autres par manque de médicaments, c'est déjà un problème.
Des enfants qui meurent de quoi? De quel type de maladie?
Rougeole, malaria, diarrhée, toutes ces maladies-là. Ça crée des décès chez les enfants. La méningite aussi. la tétanos néonatale, comme j'avais dit.
Et depuis le début de cette année, combien d'enfants en sont décédés?
Bon, je n'ai pas de précision avec moi, mais je peux estimer, ça peut être une vingtaine ou cinquantaine, entre 20 et 50. Je n'ai pas de chiffres avec moi.
20 à 50 enfants décédés depuis le début de cette année. Ah, d'accord.
Suite à ces différentes maladies, rougeole, méningite, diarrhée.
Là, c'est dans la zone de santé de Lubutu, c'est ça? On peut parler de la zone santé ou bien?
Oui, dans la zone de santé de Lubutu.
Mais vous avez parlé des difficultés que vous rencontrez, le manque de médicaments, tout ça, pour prendre convenablement en charge les malades et beaucoup plus les enfants. Quels sont d'autres défis auxquels vous êtes confrontés et qui demandent en tout cas une intervention soit du gouvernement, soit de vos partenaires?
Les défis à relever sont vraiment nombreux. Nous avons la situation de l'eau sur les milieux ici, c'est catastrophique, ce qui entraîne les maladies diarrhées et d'autres situations. Nous avons l'appui des médicaments, mais aussi la sensibilisation au niveau communautaire, parce que certaines viennent à des stades un peu avancés où la prise en charge ne répond plus.
Donc, ça veut dire que les malades commencent d'abord par l'automédication avant de venir...
Oui. Automédication, oui.
Avant de venir à l'hôpital.
Et venir à des stades d'un peu. Oui, oui. Et c'est là aussi faute des moyens, hein, parce que l'hôpital, c'est les ordonnances et qu'on sort. On comprend ça comme ça.
D'accord. Docteur Kaleba Fiston, je vous remercie.
Merci. C'est à moi aussi de vous remercier. Et merci d'avoir pensé à nous, à Lubutu.
Direction la province de l'Ituri où la peste est endémique. À ces jours, 12 zones de santé sont touchées par la peste. La plupart des personnes touchées sont des enfants, ensuite les femmes. Malgré l'apport de partenaires, la pandémie est loin d'être éradiquée, faute de moyens. C'est ce que nous dit le docteur Lossa, coordonnateur du programme de la peste en Ituri. C'est dans cet entretien avec Gisèle Cage. On écoute.
Docteur Lossa, bonjour.
Et bonjour, madame.
Vous êtes coordonnateur du programme de la peste en Ituri. Quelle est la situation épidémiologique de la peste dans la province de l'Ituri?
Oui, notre province de l'Ituri, vous savez, la peste, c'est une maladie qui se vit d'une façon permanente dans 12 zones de santé. Pourquoi nous l'appelons une endémie? La situation actuelle, c'est que de ces 12 zones de santé-là, il y a 4 qui sont affectées. Donc, oui. Notamment les zones de santé de Réti, de Logou, les zones de santé de Aou et de Rimba sont les 4 qui sont affectées pour le moment.
Ce sont des zones de santé qui sont accessibles?
Oui, les zones de santé sont accessibles. De temps à autre, il y a des problèmes d'insécurité qui surgissent. Et malgré tout, on arrive quand même à y aller.
Et la peste touche quelle catégorie de personnes? Parmi les personnes touchées, y a-t-il des enfants, par exemple? Et puis, ils sont au nombre de combien?
Majoritairement, ce sont les femmes et les enfants qui sont affectés. Et les enfants, c'est surtout parce que ces régions-là, les enfants passent nuit sur des nattes par terre. Et alors, à l'occasion, ils peuvent être piqués par des puces. Et aussi, il y a des enfants pour couvrir leurs besoins scolaires. Ces enfants allaient pratiquer la chasse aux rats et puis venir les vendre. Et souvent, c'est quand ils vont à la chasse, là, ils ont piégé les rats. Les rats mordent, ouais, une belle et puce. Et c'est à l'occasion que les enfants se font piquer par les puces et puis ils contractent la maladie.
Et les femmes aussi, comment ça se passe? Elles le contractent?
Bon, les femmes, vous voyez, les femmes, ce sont les travaux ménagers parce que c'est elles qui balayent les maisons. Et lorsqu'il y a même des veillées mortières, c'est elles qui sont autour du corps. Et à l'occasion, elles peuvent se faire piquer par ces mêmes puces qui sont infectées des microbes là-dedans.
Y a-t-il beaucoup de cas de décès, par exemple? Est-ce qu'il y en a? Et si vous avez au moins le chiffre par rapport au nombre de personnes atteintes de la peste et notamment le nombre de gens qui sont décédés de cette maladie?
Dans les statistiques que nous avons, depuis le début de l'année jusqu'à la semaine 28, nous avons c'est 402 personnes qui sont infectées dans les 4 zones de santé. Parmi ces 402, il y a 10 personnes qui sont décédées.
Ok. Parmi lesquels les enfants?
Nous avons eu plus de décès dans la zone de santé de Réti.
Pourquoi? Pourquoi seulement de ce côté-là, il y a beaucoup de décès?
La maladie a commencé plutôt chez eux. Puis, ça a affecté beaucoup plus de gens et que, il y a eu aussi beaucoup de décès. Mais puis, les décès aussi, vous voyez, surtout au début, ça suivait au début de la maladie. Là, les membres de la communauté sont encore en train d'hésiter au lieu de se présenter directement aux soins. Ils tentent d'abord le traditionnel et quand ça ne tient pas, on arrive au centre de santé. Et quand c'est trop tard là, vous voyez, même si vous donnez les médicaments, ça ne joue pas tellement. C'est comme ça que on arrive à faire.
Vous dites que la peste est dans 12 zones de santé, donc ce sont des zones. Quels sont les efforts que vous menez pour faire face à cette épidémie à votre niveau? Comment ça se fait?
Les efforts qui sont faits à notre niveau, que nous faisons la surveillance de ces maladies, et dans notre équipe qui est au niveau de Bounia, on a fait des réunions chaque jeudi pour voir quelle est la situation. Et aussi, nous mobilisons tous les partenaires qui sont actifs pour travailler avec eux, de sorte qu'on arrive à poster dans le cas des maladies. Dans le cas d'une flambée. Et aussi, nous avertissons les autorités politico-administratives de sorte qu'ils puissent mobiliser la communauté, soit ce qui concerne l'hygiène et l'assainissement dans leur milieu respectif.
Docteur Lossa, et quels sont les grands défis que vous rencontrez pour faire face à la peste depuis quelques années? Parce que vous dites que c'est la peste est endémique dans cette région-là. Quels sont les grands défis que vous avez parce que vous n'arrivez pas complètement à éradiquer la pandémie?
Bon, éradiquer la pandémie, je crois que c'est un gros mot parce que éradiquer la pandémie, ça veut dire qu'on a mis rien pour qu'on puisse avoir des résultats. Bon, pour le moment, nous n'avons pas de grands moyens pour arriver à éradiquer, mais nous faisons ce que nous pouvons. Et le grand défi en ce qui nous concerne, notamment, la mise à disponibilité de ces zones de santé, des moyens d'abord pour qu'on puisse circuler librement dans les zones de santé affectées et aller faire la supervision des différents centres de santé et aussi la disponibilité des insecticides parce que c'est une maladie qui se transmet par des puces et il faut qu'on ait des insecticides pour qu'on puisse tuer ces puces et aussi les gens qui sont malades, il faut qu'on ait des médicaments à leur portée. Parce que chaque fois ici, pour le moment, nous dépendons en fait des partenaires. Ce sont les partenaires qui nous aident. Ces partenaires-là, c'est notamment l'OMS, nous avons l'UNICEF, nous avons aussi l'OMS, disons les partenaires TESER qui nous aident. Et grâce à leur évaluation que nous assurons, par exemple, la prise en charge des cas et même la désinsectisation. Mais il faut qu'on puisse en avoir de façon permanente dans les zones de santé pour que à notre niveau, dès qu'il y a quelque chose, ils sont à mesure de réagir immédiatement.
Donc, il y a tout le temps rupture de stock de médicaments.
Oui, c'est ça. Rupture de stock de médicaments. Et puis, bon, certains n'ont pas de moyens pour se déplacer librement. Ils utilisent leurs propres armes pour les déplacements. C'est ce qui fait qu'ils n'ont vraiment pas la liberté. Donc, il y a un appui comme tel. C'est vraiment souhaité pour qu'elle soit plus consistante. Et on ne peut pas parler directement de l'éradication. Je pense que ce que nous visons dans le premier temps, c'est qu'on arrive d'abord à contrôler la maladie. C'est que la maladie est bien contrôlée, sinon après, c'est pas ce que nous pouvons penser à l'éradication.
D'accord. Mais allez-y.
C'est une zoonose. C'est-à-dire que c'est une maladie qui est dans le monde animal et qui se transmet chez l'homme, par possible. Et puis, ce sont pas seulement les rats, il y a d'autres rongeurs sauvages aussi qui peuvent être affectés par cette maladie. Donc, ça veut dire que nous seuls, ici, de la santé, nous ne pouvons pas arriver à le contrôler. Il faut que nous mettions ensemble avec d'autres secteurs, notamment ceux de l'environnement et puis la médecine vétérinaire. Il y a lieu d'arriver à réaliser d'abord un contrôle de la chaise.
Ok. Docteur Lossa, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.
Ok, merci beaucoup aussi, madame la journaliste.
Vous venez d'écouter le docteur Lossa, coordonnateur du programme de la peste en Ituri, où 12 zones de santé sont touchées par la peste. Nous nous excusons pour la mauvaise qualité de la ligne téléphonique, ce qui a détérioré la qualité de cet élément.
Mon ton son, notre votre l'heure.
Le français parlons-en, c'est tous les samedis à 13h05 sur Radio Okapi.
Parlons français. Le français parlons-en.
Le français parlons-en, un programme de Radio Okapi coproduit avec l'ambassade de France en RDC et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le français parlons-en, une autre façon d'apprendre et de parler correctement le français.
Parlons français. Le français parlons-en.
L'analyse IPC malnutrition aiguë, conduite en octobre 2023, dont les résultats ont été présentés en juin dernier, rapporte que près de 1,1 million d'enfants de moins de 5 ans et près de 605 119 femmes enceintes ou allaitantes souffriront probablement de malnutrition aiguë entre juillet 2023 et juin 2024 dans 112 zones de santé analysées sur le 519 zones de santé que compte le pays. La province du Sud Kivu est la plus touchée par des cas de malnutrition. Il y a quelques jours, dans cette même émission, Rachel Kessi a interrogé le docteur Nyakasani, médecin pédiatre et fondateur de l'ONG Action Sociale Kesho Congo, engagé dans la lutte contre la malnutrition des enfants. Suivez leur entretien.
Docteur Nyakasani, bonjour.
Bonjour.
Les dernières statistiques de l'UNICEF révèlent que les taux de malnutrition chronique au Sud Kivu est de 53% et c'est le taux le plus élevé en RDC. Qu'est-ce qui explique que le Sud Kivu est plus particulièrement très touché par rapport au Nord Kivu qui fait face à la guerre?
Au fond, il faut dire que le Sud Kivu connaît depuis pas mal d'années des problèmes liés à l'insécurité dans plusieurs villages, liés à la difficulté finalement pour les villages qui produisent de pouvoir écouler leurs marchandises, leurs produits de récolte. Mais également, il y a cette crise justement du Nord Kivu, donc la crise du M23, qui impacte aussi le Sud Kivu. On sait très bien qu'il y a des déplacés de guerre qu'on trouve dans la zone des santé de Minova et dans certaines autres zones de santé de notre province, en plus évidemment de la conjoncture générale du pays et même du monde qui fait que le coût de vie devient cher. Tout ça, ce sont évidemment des éléments qui expliquent que justement les taux de malnutrition ne font que croître. Alors, le Sud Kivu, comme je viens de le dire, je crois que nous sommes vraiment une province qui fait face à plusieurs problèmes, donc des problèmes multifactoriels liés non seulement à l'insécurité, liés à la présence des groupes armés dans certains coins de la province, liés au fait que les routes pour arriver dans plusieurs villages où on produit, où il y a vraiment de l'agriculture, sont difficiles, liés au fait que également la pauvreté au sein de la population augmente suite à la conjoncture générale du pays, mais aussi beaucoup de déplacés qui viennent du Nord Kivu et d'autres provinces, qui fuient les guerres. Tout cela, finalement, rétentit sur le taux de malnutrition chronique dans notre province qui augmente d'année en année. Je crois qu'il est important de souligner le fait que les efforts doivent vraiment être conjugués. Tous les acteurs doivent s'engager pour pouvoir proposer des solutions à cette problématique qui est grave. Il faut dire que les conséquences, les complications de la malnutrition sont telles que c'est l'avenir du pays qui est en danger. Quand on sait qu'il y a des enfants qui développent des déficits intellectuels, quand on sait qu'il y a des enfants qui deviennent vulnérables aux infections, puisque la malnutrition est un état d'immunodépression, quand on sait qu'il y a des enfants qui finissent en infirmité motrice du fait de la malnutrition, quand on sait qu'il y a un impact sur le développement économique, puisque la Banque mondiale estime qu'il y a des pertes de l'ordre de 3 à 8% sur le produit intérieur brut du fait de la malnutrition, quand on sait également qu'il y a des conséquences sur le plus long terme, c'est-à-dire des enfants qui ont fait la malnutrition dans la basse enfance sont prédisposés à développer les maladies cardiovasculaires à l'âge adulte. Et même maintenant, on parle aussi des maladies psychiatriques. Je pense que tout le monde doit vraiment s'engager dans cette lutte.
À Kishokongo, votre organisation sociale, vous proposez des solutions locales justement pour lutter contre la malnutrition chronique chez les enfants. Parlez-nous-en.
Alors, chez Kishokongo, effectivement, depuis le début, nous travaillons vraiment sur les solutions locales parce que nous sommes partis du constat que, au fond, les solutions que nous avons, qui sont efficaces, n'est-ce pas, qui nous aident tellement, je veux dire, le plan Peanut, le lait thérapeutique, eh bien, souvent, on connaît des ruptures de stock dans nos structures, voilà, que ce soit les centres de santé, les hôpitaux. Et c'est parfois des ruptures de stock qui peuvent être prolongées. Nous nous sommes dit chez Kishokongo, lorsque nous sommes en rupture de stock, il faut qu'il y ait pendant ce temps des solutions qui nous permettent déjà de prendre en charge nos enfants. Et c'est là que nous avons vraiment imaginé comment travailler sur des produits locaux, les farines locales qu'on utilise pour faire les bouillies pour les enfants, pour faire les biscuits pour les enfants, de manière à ce que vraiment nous puissions répondre aux besoins qui sont énormes par rapport à la prise en charge de la malnutrition. Il faut dire que, voilà, comme je le soulignais, les ruptures de stock en intrants classiques, déjà depuis la pandémie du Covid-19, lorsque les frontières étaient fermées, les approvisionnements étaient quand même, moins réguliers, un peu plus difficiles. Et puis, il y a eu la guerre en Ukraine par la suite, qui a quand même impacté de manière globale la conjoncture mondiale. Donc, toutes ces raisons ont fait que, finalement, les approvisionnements soient vraiment difficiles et que donc, les solutions locales trouvent toute leur place pour pouvoir non seulement prévenir la malnutrition, mais aussi déjà prendre en charge des cas de malnutrition aiguë modérée. Parce qu'il faut dire que quand même pour les cas de malnutrition aiguë sévère, là, ce sont les intrants classiques qui doivent être utilisés.
Jusqu'à aujourd'hui, combien d'enfants avez-vous encadrés? Combien d'enfants avez-vous justement aidé à sortir de la malnutrition? Et à ce jour, c'est quoi les statistiques de votre organisation?
Alors, Kishokongo a été créé en novembre 2015. 2016, il faut dire que c'était un peu, donc le tout début. On mettait en place notre stratégie, nos idées, notre vision. Et au fond, très vite, nous nous sommes vraiment mis au travail. Il faut dire que depuis 2017-2018, pratiquement chaque année, notre travail touche entre 40 000 et 50 000 enfants. Je dois dire qu'actuellement, d'ailleurs, avec un nouveau projet que nous implémentons dans le Sud Kivu et le Kassai Central, nous touchons beaucoup plus d'enfants, autour de 300 000 enfants chaque année. Et c'est donc important de dire que le travail de Kishokongo est là. Nous voyons des résultats. Ces résultats-là sont vus, sont connus, sont documentés. L'année passée, nous avons été conviés au Forum National de Nutrition, le premier Forum National de Nutrition par, n'est-ce pas, le Programme National de Nutrition, le PRONANUT, et nous avons justement présenté notre travail. Mais je crois que il est important que tous les autres acteurs qui interviennent dans le domaine de la nutrition et de la sécurité alimentaire, il est vraiment important qu'ils puissent conjuguer leurs efforts, travailler ensemble pour que l'impact soit beaucoup plus important et visible, de manière à ce que lors des prochaines enquêtes de nutrition, on remarque vraiment que donc la tendance s'améliore ou que donc les taux baissent sensiblement.
Et comment ça se passe chez Kishokongo? Comment vous repérez les enfants? Comment ça se passe pour que vous arriviez à apporter votre appui dans ces familles dont les enfants souffrent de malnutrition?
Nous travaillons avec les relais communautaires. Donc nous nous inscrivons vraiment dans la politique, on va dire, sanitaire, hein, nutritionnelle de notre pays. Ça, c'est très important de pouvoir le dire. Donc, on travaille avec les relais communautaires, mais aussi nous avons en fait des UNS, des UNTA, qui sont au milieu, en tout cas, de la population. On essaye vraiment d'aller dans des quartiers défavorisés, en plein milieu de la population, de manière à ce que lorsqu'il y a des cas dans la communauté, ces cas puissent être envoyés dans notre centre pour que nous puissions poser le diagnostic. Donc on travaille avec les relais communautaires, mais également nos centres accueillent justement des mamans qui viennent avec leurs enfants. Ces mamans-là sont formées sur comment repérer les premiers symptômes, n'est-ce pas, les premiers signes de la malnutrition. Donc, ce n'est pas difficile. On le montre aux mères, donc en leur disant, dès lors que vous remarquez qu'il y a tel problème, tel autre problème, faites attention, amenez votre enfant au centre pour que on puisse l'examiner et poser le diagnostic. Il faut dire que nous travaillons beaucoup aussi dans le cadre de la nutrition à assise communautaire. Une approche très très importante de notre programme national de nutrition. Donc notre travail insiste aussi sur le fait que les mères doivent être sensibilisées pour prendre part aux consultations prénatales, mais également pour qu'elles amènent leurs enfants pour les consultations préscolaires, donc les CPS. Donc voilà un peu. Donc les relais communautaires, mais également nos centres qui sont vraiment dans les quartiers, là où vivent les populations défavorisées, de manière à accueillir les nouveaux cas.
D'où tirez-vous les moyens nécessaires pour arriver justement à appuyer ces familles atteintes par ce problème de malnutrition ?
Nous avons, dès le départ, chez Kesho Congo, imaginé développer une activité génératrice de revenus. Nous avons une unité de production, d'ailleurs pas une, nous avons quelques unités de production, deux des unités de production ici à Bukavu, où on produit en fait des biscuits. Là, ce sont des biscuits qui sont commercialisés. Il y a du pain, il y a des galettes, il y a des beignets. Donc ces produits-là sont commercialisés pour pouvoir, n'est-ce pas, nous permettre d'être d'une certaine manière autonomes pour répondre à certains besoins qui sont urgents, en dehors même de tout appui extérieur. Après, nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons qui appuient notre travail. C'est pour moi d'ailleurs ici une occasion pour dire merci à tous les partenaires qui travaillent avec nous, qui soutiennent notre travail, puisque sans eux, ce serait vraiment difficile atteindre autant d'enfants, autant de femmes enceintes, autant de femmes allaitantes. Il faut vraiment qu'il y ait un appui. Et aujourd'hui d'ailleurs, j'en appelle vraiment à tous les autres partenaires pour qu'il y ait beaucoup plus de synergie, pour que les gens travaillent ensemble de manière à adresser cette problématique.
Docteur Adolphe Nyakassani, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Vous venez d'écouter le docteur Nyakassani, médecin pédiatre et fondateur de l'ONG Action Sociale Kesho Congo. Il répondait aux questions de Rachel Kessembangou. Okapi. Le magazine Bana Okapi se poursuit sur les antennes de Radio Okapi. Nous faisons le point sur la situation sanitaire en RDC. Plus de 2 millions de déplacés vivent dans des camps autour de la ville de Goma, au nord Kivu. Ces camps sont construits sur les dépotoirs, ce qui expose les occupants à des épidémies. Le choléra persiste car l'eau potable manque et la situation va au-delà des interventions. Toujours au nord Kivu, des cas de malnutrition sont enregistrés car les vivres n'arrivent pas suffisamment à Goma à la suite de tensions armées dans la région. Le docteur Stéphane Ansbatei, coordonnateur du programme élargi de vaccination au nord Kivu, nous fait le point de la situation épidémiologique au nord Kivu. C'est dans cet entretien avec Gisèle Cage. Suivez.
Docteur Hans Batei, bonjour.
Bonjour, Joseph Cage.
Vous êtes coordonnateur du programme élargi de vaccination au Nord Kivu. Dans son communiqué du 12 juillet, l'Organisation mondiale de la santé alerte sur une situation sanitaire catastrophique dans le pays. Donc la population est confrontée à des épidémies de choléra, de rougeole, de méningite, de variole, de peste aussi, et également d'un variant de Mackinpox. Nous voulons savoir quelle est la situation sanitaire dans la province du Nord Kivu.
Merci Gisèle. Effectivement, le Nord Kivu, c'est pas seulement cette alerte, ça fait pratiquement 2 ans que le Nord Kivu héberge un nombre très important de déplacés venant des zones de santé insécures suite à la situation du moment que vous connaissez. Et donc au niveau de la ville de Goma par exemple, on a environ plus ou moins 2 400 000 déplacés internes qui sont dans le camp de déplacés dans des conditions très déplorables. Quand on voit les triades épidémiologiques, agents infectieux, environnement et les routes, ils sont pratiquement dans des conditions pour que des épidémies éclosent, les cas de choléra. L'eau est là, qui n'est pas suffisamment traitée. Ils ont érigé le camp, que ça soit Lushagala, que ça soit Rusayo, que ça soit tous les camps de déplacés. Ils sont construits sur les dépotoirs. Donc ça signifie que sur le plan épidémiologique, la population est exposée à faire des épidémies et c'est comme ça que, étant dans une ville en démon épidémique de choléra, la situation de choléra persiste et c'est comme ça que nous avons des sérieux problèmes dans ces camps, dans la ville de Goma, et autour des camps de déplacés. Et les cas continuent malgré l'intervention de certains partenaires. La situation semble un peu dépasser un peu notre capacité de prise en charge. Il y a aussi la pénurie de l'eau. Bien que nous sommes à côté du lac, l'eau qui est envoyée dans le camp, c'est de l'eau qui n'est pas suffisamment traitée. Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect est lié à ces problématiques de monkeypox. Donc, nous avons pratiquement plus de 29 cas de monkeypox depuis la semaine épidémiologique du début de l'année jusqu'au 27e semaine épidémiologique. On a autour de 29 cas de monkeypox dont la prise en charge pour le moment est orientée vers l'hôpital provincial de la province. En dehors de ça, tous ces déplacés avec des enfants qui sont dans de mauvaises conditions, il y a la malnutrition aussi qui est en train de se greffer puisque effectivement la ville presque plus en étau, il y a plus de vivres qui viennent de Minova, ça passe par les lacs, mais en des petites quantités, l'axe Masisi, l'axe Kichanga, l'axe Rutshuru. En tout cas, nous sommes dans des conditions vraiment favorables pour l'éclosion des épidémies. Et là, on ne met pas le paludisme, on ne met pas d'autres maladies, de maladies tueuses d'enfance.
Donc, il y a aussi des cas de paludisme aussi.
Bien sûr, puisque vous savez très bien, dans le camp de déplacés, dans le bâche où ils passent nuit, il n'y a pas de moustiquaires, et tout ça, ça fait vraiment une explosion de cas de paludisme également. On a des cas de monkeypox, on a des cas de choléra, donc il y a, en plus de ça, il y a la déshydratation. Des enfants de moins de 5 ans avec des diarrhées sanglantes aussi. Donc on a pas mal assez de problèmes au niveau du camp de déplacés.
Qui sont le plus touchés? C'est tout le déplacé ou bien c'est beaucoup plus les enfants qui sont touchés, notamment par le choléra, le Mackinpox et problèmes de malnutrition?
Ceux qui sont le plus touchés paludisme et choléra, c'est plus les enfants de moins de 5 ans. Donc, ils sont le plus vulnérables avec des diarrhées aussi. Ce sont les enfants de moins de 5 ans, y compris les femmes en général, plus les femmes enceintes, puisqu'ils sont dans un état également de grossesse. Mais suite à cette vulnérabilité aussi, ça s'accentue effectivement.
Mais pourquoi on ne fournit pas l'eau propre dans les camps de déplacés? Et qui est en charge de fournir de l'eau dans ces camps?
En fait, c'est la politique de moyens. Donc le partenaire, il donne le moyen, mais il donne de l'eau, mais c'est insuffisant. Moins de 5 litres par personne par jour, c'est insuffisant. Nous saluons déjà l'appui du gouverneur. Le gouverneur militaire a financé l'adduction à travers des forages. Je pense que ça va soulager tant soit peu, puisque le problème de choléra, c'est les triades hygiène, triade eau et la prise en charge, notamment la vaccination. Donc on a plus le problème de l'eau dans le camp de déplacés. Les humanitaires ont plus préféré amener de l'eau par des camions, ce qui est vraiment insuffisant, moins de 5 litres par personne, par jour, c'est insuffisant. Et ce sont des facteurs d'éclosion de choléra.
Docteur, le rapport de l'OMS parle aussi des cas des rougeoles, hein. Mais là, je crois que c'est dans le pays plus de 65 000 cas de rougeole et 1523 décès qui ont été signalés. Bon, depuis en tout cas cette année. Donc l'OMS dit qu'il s'agit en tout cas d'un chiffre réel plus élevé en raison de l'insuffisance de la surveillance de la maladie et de la communication donnée. Mais au Nord Kivu, comment se présente la situation de rougeole? Est-ce que vous enregistrez également des cas de rougeole?
De manière générale, pour le camp des déplacés, nous avons réussi à organiser des activités accélérées. Quand les déplacés arrivaient, il y a de cela une année, avec l'appui de MSF, on a immunisé les enfants contre la maladie évitable par le vaccin, notamment la rougeole. C'est comme ça que dans le camp, on n'a pas assez de cas. Mais de manière générale, pour la province du Nord Kivu, nous avons des cas de rougeole. Donc nous sommes autour des 300 cas depuis le début de l'année. Et les zones qui posent plus de problèmes, c'est la zone santé de Mouesso, où on a plusieurs cas de rougeole. La zone santé de Moussienene est dans la partie nord de province. Donc nous avons des cas sporadiques dans certaines zones santé qui sont déjà en épidémie. Mais comme province, nous avons organisé déjà la prise en charge. Donc on a envoyé des kits de prise en charge des cas de rougeole. Mais nous sommes en train également de voir dans la mesure du possible comment faire la vaccination sélective dans les aires de santé hotspot, y compris aussi la vaccination contre la rougeole dans les zones puisque les cas commencent à dépasser. Donc les noms qui vous effectivement notifient des cas de rougeole aussi.
Et qu'en est-il de la méningite? Est-ce qu'il y a des cas de méningite, par exemple?
Nous avons des zones de santé qui sont dans la ceinture méningée. Donc nous avons la ceinture méningétique qui commence à partir de la province orientale. Ça traverse effectivement les zones de Rutshuru, les zones de Rwanguba, Mouesso, et ça remonte vers Walikale. Nous avons effectivement des cas de méningite également dans certaines zones de santé. Donc il y a des zones qui notifient des cas de méningite. Et ça, c'est aussi vrai. Nous avons des cas de méningite aussi.
Mais docteur, au regard de toute cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour remédier à cela? Visiblement, ça nécessite de gros moyens.
Effectivement, ça nécessite de moyens, mais d'une manière générale, on a besoin d'abord que les gens retournent, puisqu'il y a un mouvement pendulaire de la population. Même quand on organise des interventions, les gens vont ci et là, ils rentrent dans leur coin pour chercher à manger, ils retournent. C'est pratiquement la stabilité qu'on attend. Donc, si une fois la population retourne, il y a la paix, ça va nous permettre de relancer activement les activités. Mais comme programme, je l'ai dit, j'ai l'avantage également de coordonner le programme One Health. Donc, je travaille avec l'environnement, je travaille également avec les vétérinaires pour certaines maladies liées aussi à l'environnement, mais aussi liées aux zoonoses par les animaux. Donc, nous avons un plan de relance, notamment pour la vaccination. Nous sommes en train de voir comment renforcer la vaccination de routine dans les zones santé qui ont beaucoup d'enfants non vaccinés ou insuffisamment vaccinés, puisqu'on a effectivement cette possibilité de vacciner dans toutes les zones de santé, puisque nous les faisons pendant des campagnes de masse. Ça, c'est le plan pour la vaccination. Mais de manière générale, au niveau de la division, il y a aussi cette réflexion d'un plan d'incidence pour réagir sur le choléra, réagir également par rapport au monkeypox. Donc il y a beaucoup de stratégies que nous sommes en train de mettre en place pour voir comment ne fût-ce que protéger les enfants de moins de 5 ans, y compris les femmes, notamment les femmes enceintes.
Pour terminer avec vous, docteur Stéphane Anse-Batei, le cas des monkeypox, est-ce que c'est dans le camp des déplacés ou bien c'est en dehors des lieux de cantonnement des déplacés?
On a notifié également des cas dans le camp de déplacés.
Et donc, également
on a 29
enfants?
Cas qu'on a notifiés dans le camp de déplacés, que ça soit l'Ouchadala, que ça soit dans le camp de la zone de santé de Goma, on a notifié des cas de monkeypox. Heureusement, on a commencé déjà à organiser la prise en charge au niveau de l'hôpital provincial. Donc tous les cas de monkeypox, on les oriente au niveau de l'hôpital. De cas aussi graves, on les oriente au niveau de l'hôpital pour la prise en charge médicale. Il y a aussi les renforcements de la surveillance, mais aussi la communication aussi des risques pour l'engagement communautaire, pour que la population puisse respecter les mesures barrières, la distanciation et aussi les lavages de mains à chaque instant pour éviter la propagation de la maladie.
Parmi les cas, il y a aussi des enfants ou bien c'est uniquement des adultes?
Effectivement, parmi les cas, il y a aussi des enfants de moins de 5 ans.
D'accord. Ouais. Docteur Stéphane Anse-Batei, je vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions et je rappelle que vous êtes le coordonnateur du programme élargi des vaccinations au Nord Kivu.
Merci, Joseph Cage.
Vous l'avez compris, c'est tout pour aujourd'hui. L'Organisation mondiale de la santé alerte sur une situation catastrophique dans le pays. La population est confrontée à des épidémies de choléra, de rougeole, de méningite, de variole et de peste, toutes exacerbées par les graves inondations et glissements de terrain qui touchent certaines parties du pays. L'OMS est également préoccupée d'un variant du monkeypox depuis quelques mois en RDC. Plus de 11 000 cas, dont 445 décès, sont répertoriés avec un taux de létalité élevé de plus de 4%. Les enfants sont particulièrement touchés par cette épidémie avec des taux de mortalité encore plus élevés. La situation sanitaire en RDC était au centre de cette émission. Le docteur Stéphane Anse-Batei, coordonnateur du programme élargi de vaccination au Nord Kivu, le docteur Nyaka Sani, médecin pédiatre et fondateur de l'ONG Action Sociale Kesho Congo, le docteur Lossa, coordonnateur du programme de la peste en Ituri, et le docteur Fiston Kaleba Kikukama, médecin directeur de l'hôpital général de Lubutu, étaient nos invités. Gisèle Cage, Bernadette Nyangui, Jean Gandou, Florence Kiza, Rachel Kessé ont coproduit cette émission. Une réalisation de Gisèle Cage sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. Mise en onde de Billy Landry Betou. Une présentation de Sarah Stumbela. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site www.radiookapi.net et sur la page Facebook Bana Okapi. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi et à l'émission Bana Okapi.